Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel, rue Lapeyrouse, derrière l'Arc de Triomphe, et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs qu'il sacrifiait, de plaisirs moins nécessaires pour lui, de la voir plus tôt d'arriver chez les Verdurin avec elle, à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble et auquel il attachait plus de prix. Parce que grâce à cela, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quittée. Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann, un soir comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait à demain. Elle cueillit précipitamment dans le petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour, et quand au bout de quelques jours la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle, deux fois seulement dans l'après-midi, il était allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé, l'isolement et le vide de ses courtes rues, fait presque toutes des petites petits hôtels contigus, dont tout à coup venait rompre la monotonie quelques sinistres échoppes, témoignages historiques et restes sordides du temps où ces quartiers étaient encore mal famés. La neige qui était restée dans le jardin et aux arbres, le négligé de la saison, le voisinage de la nature donnait quelque chose de plus mystérieux à la chaleur, aux fleurs qu'il avait trouvées en entrant. Laissant à gauche, au rez-de-chaussée, surélevé, la chambre à coucher d'Odette qui donnait derrière sur une petite rue parallèle, un escalier droit entre des murs peints de couleurs sombres et d'où tombaient des étoffes orientales, des fils de chapelet truqués, une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie, mais qui, pour ne pas priver les visiteurs des derniers conforts de la civilisation occidentale, s'éclairait au gaz. Montés au salon et au petit salon, ils étaient précédés d'un étroit vestibule dans le mur quadrillé d'un treillage de jardin, mais doré et débordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissait, comme dans une serre, une rangée de ces gros chrysanthèmes, encore rares à cette époque, mais bien éloignés cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Swann était agacé par la mode qui, depuis l'année dernière, se portait sur eux, mais il avait eu plaisir cette fois à voir là pénombre de la pièce zébrée de rose, d'oranger et de blanc par les rayons odorants de ces astres éphémères qui s'allument dans les joues gris. Odette l'avait reçue en robe de chambre de soie rose, le cou et les bras nus. Elle avait fait asseoir près d'elle, dans un des nombreux traits mystérieux qui étaient ménagés dans les renfoncements du salon, protégés par d'immenses palmiers contenus dans des cache-pots de Chine ou par des paravents auxquels étaient fixées des photographies, des nœuds de ruban et des éventails. Elle lui avait dit: vous n'êtes pas confortable comme cela, attendez-moi, je vais bien vous arranger. Et avec le petit rire vaniteux qu'elle aurait eu pour quelques inventions particulières à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu'elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ses richesses et insoucieuse de leur valeur. Mais quand le valet de chambre était venu apporter successivement les nombreuses lampes qui, presque toutes enfermées dans des potiches chinoises, brûlaient isolées ou par couple toutes sur des meubles différents, comme sur les autels qui, dans les crépuscules déjà presque nocturnes de cette fin d'après-midi d'hiver, avaient fait reparaître un coucher de soleil plus durable, plus rose et plus humain, faisant peut-être rêver dans la rue quelques amoureux arrêtés devant le mystère de la présence que décelait et cachait à la fois les vitres rallumées. Elle avait surveillé sévèrement du coin de l'œil le domestique pour voir s'il les posait bien à leur place consacrée. Elle pensait qu'en mettant une seule là où il ne fallait pas, l'effet d'ensemble de son salon eût été détruit et son portrait placé sur un chevalet oblique drapé de peluche mal éclairé. Aussi suivait-elle avec fièvre les mouvements de cet homme grossier, le reprimanda-t-elle vivement parce qu'il avait passé tout près de ce jardinière qu'elle se réservait de nettoyer elle-même dans sa peur qu'on ne les abîmât et qu'elle alla regarder de près pour voir s'il ne les avait pas écornés. Elle trouvait à tous ces bibelots chinois des formes amusantes et aussi aux orchidées, aux cattleyas surtout, qui étaient avec les chrysanthèmes ses fleurs préférées, parce qu'ils avaient le grand mérite de ne pas ressembler à des fleurs, mais d'être en soie, en satin. Celle-là a l'air d'être découpée dans la doublure de mon manteau, dit-elle à Swann en lui montrant une orchidée avec une nuance d'estime pour cette fleur si chic, pour cette sœur élégante et imprévue que la nature lui donnait si loin d'elle, dans l'échelle des êtres et pourtant raffinés, plus digne que bien des femmes, qu'elle lui fit une place dans son salon, en lui montrant tour à tour des chimères à langue de feu décorant une potiche ou brodée sur un écran, les corolles d'un bouquet d'orchidées, un dromadaire d'argent niellé aux yeux incrustés de rubis qui voisinait sur la cheminée avec un crapaud de jade. Elle affectait tour à tour d'avoir peur de la méchanceté ou de rire de la cocasserie des monstres. de rougir de l'indécence des fleurs et d'éprouver un irrésistible désir d'aller embrasser le dromadaire et le crapaud qu'elle appelait chéri. Et ses affectations contrastaient avec la sincérité de certaines de ses dévotions, notamment à Notre-Dame de Laguet qu'il avait jadis. Quand elle habitait Nice, guérie d'une maladie mortelle, et dont elle portait toujours sur elle une médaille d'or à laquelle elle attribuait un pouvoir sans limite, Odette fit à Swann santé, lui demanda citron ou crème, et comme il répondit crème, lui dit en riant un nuage, et comme il le trouvait bon, vous voyez que je sais ce que vous aimez. Ce thé, en effet, avait paru à Swann quelque chose de précieux. Comme à elle-même, et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui n'en seraient pas et finissent avec lui, que quand il avait quitté à 7 heures pour rentrer chez lui, s'habiller pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, se répéter, ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose si rare du bon thé. Une heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes et qui eussent signifié peut-être pour des yeux moins prévenus le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette, que ni avez-vous oublié aussi votre cœur. Je ne vous aurais pas laissé le surprendre. Une seconde visite qui lui fit plus d'importance peut-être, en se rendant chez elle ce jour-là, comme chaque fois qu'il devait la voir. D'avance, il se la représentait, il la nécessitait. Et la nécessité où il était pour trouver jolie sa figure de limiter aux seules promesses roses et fraîches les joues qu'elle avait si souvent jeunes, languissantes, parfois piquées de petites points rouges, l'affligeait comme une preuve que l'idéal inaccessible le bonheur médiocre et lui apporter une gravure qu'elle désirait voir. Elle était un peu souffrante, elle le reçut en peignoir de crêpe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine comme un manteau une étoffe richement bordée. Debout à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu'elle avait dénoués, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait en inclinant la tête de ses grands yeux si fatigués et maussades. Maussade, quand elle ne s'animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons ainsi dans la matière d'un buste du dogue, l'oreille dent par Antoine Rizzo, la saillie des pommettes, l'obliquité des sourcils, enfin la ressemblance criante de son crochet Rémi. Sous les couleurs d'un guirlandajou, le nez de Monsieur de Palancy, dans un portrait de Tintoret, l'envahissement du gars de la joue par l'implantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pénétration du regret, la congestion des paupières du docteur du Boulban, peut-être ayant toujours gardé un remords d'avoir tourné sa vie aux relations mondaines, à la conversation, croyait-il trouver une sorte d'indulgent pardon à lui accorder par les grands artistes, dans ce fait qu'il avait eu aussi considéré avec plaisir, fait entrer dans leurs œuvres de tels visages qui donnent à celle-ci un singulier certificat de réalité et de vie, une saveur moderne, peut-être aussi s'était-il tellement laissé gagner par la frivolité des gens du monde qu'il éprouvait le besoin de trouver dans une œuvre ancienne ses allusions anticipées et rajeunissantes à des noms propres d'aujourd'hui. Peut-être au contraire avait-il gardé suffisamment une nature d'artiste pour que ses caractéristiques individuelles lui causassent du plaisir en prenant une signification plus générale dès qu'il les s'apercevait, déraciné, délivré dans la ressemblance d'un portrait plus ancien avec un original qu'il ne représentait pas. Quoi qu'il en soit, et peut-être parce que la plénitude d'impression qu'il avait depuis quelque temps, et bien qu'elle lui fût venue plutôt avec l'amour de la musique, avec enrichir même son goût, avait enrichi même son goût pour la peinture, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur soi une influence durable qui trouva ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Zéphora de ce Sandro, dit Mariano, auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli, depuis que celui-ci évoque au lieu de l'œuvre véritable du peintre l'idée banale et fausse qui s'en est vulgarisée, il n'estima plus le visage d'Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues et d'après le docteur la douceur purement carnée qu'il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres si jamais il osait l'embrasser, mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que ses regards devidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoignant la cadence de la nuque à l'effusion des cheveux et à la réflexion des paupières, comme un portrait d'elle en lequel son type devenait intelligible et clair. Il la regardait, un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps que dès lors il chercha toujours à y trouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle, et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre Florentin que parce qu'il le retrouvait en elle. Pourtant, cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté et la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandro et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouva une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur, il ne s'était pas résigné à un pis-aller aussi imparfait qu'il l'avait cru jusqu'ici, puisqu'elle contentait en lui ses goûts d'art les plus raffinés. Il oubliait qu'Odette n'était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot d'œuvre florentine rendit un grand service à Swann et lui permit comme un titre de faire pénétrer l'image d'Odette dans un monde de rêve où elle n'avait pas eu succès jusqu'ici et où elle s'imprégna de noblesse. Et tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps et de toute sa beauté affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits. Cet amour assuré, quand il eut à la place pour base et donné d'une esthétique que certaine, sans compter que le baiser et la possession qui semblaient naturels et médiocres, s'il lui était accordé par une chair abîmée venant couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturels et délicieux.